Justin, bien, ça chahute sur Azimut.
Bonsoir, chers auditeurs de La Fabrique. Nous sommes avec Nicolas Fraissinet, un artiste franco-suisse initié à la musique en famille. Il est auteur, compositeur, pianiste. Il signe des chansons sensibles qui jouent en jeu sur les cordes de nos émotions. Nous l'avons rencontré lors de la conférence de Voix de Fête, lors de l'annonce du programme de Voix de Fête 2016, avant son concert live, dont il a tiré un album éponyme en 2015. Album qui contient deux nouveaux titres et des reprises de lui et d'autres.
Azimut.
Dans tes chansons, Nicolas, il y a beaucoup de « je ». Du coup, je vais te demander, pour commencer cette interview, de présenter en « je » Nicolas, celui qui n'est pas Fraissinet l'artiste.
Alors, qui suis-je si je ne suis pas Fraissinet l'artiste? C'est une bonne question. J'ai beaucoup de mal à faire la distinction entre les deux, parce que pour moi... la musique et le fait de monter sur scène pour chanter, ça fait partie intégrante de ce que je suis et de comment je me suis construit. Donc, je pense pas qu'il y ait un jeu vraiment très séparé de celui qui s'exprime sur scène. Comment est-ce que je me définirais? Je dirais que je suis d'abord un pianiste, parce que j'ai commencé à m'exprimer avec un piano. Et puis ensuite, les histoires sont venues petit à petit quand je me suis mis à composer des musiques en m'imaginant des histoires. Et puis petit à petit, je me suis mis à raconter des histoires en les écrivant, puis ensuite à les chanter. Donc le chanteur est venu après le pianiste. Il y a eu une espèce d'évolution comme ça, justement de construction. Et c'est pour ça que pour moi, le Nicolas qui est sur scène, c'est le même un peu que celui qui a appris à parler, que celui qui va dans le jardin pour jouer, Voilà, c'est un tout en fait. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures.
Souvent, dans les interviews ou sur ton site internet, tu revendiques tes racines franco-suisses. En même temps, tu dis que la Suisse est le pays de tes deux naissances. Est-ce que c'est parce que tu aurais envie d'un peu plus de reconnaissance en France ou est-ce que tu as vraiment un cœur suisse?
Je ne suis pas sûr que ce soit le fait de dire que la Suisse est le pays de mes deux naissances qui me donnerait plus de reconnaissance en France. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une recette ou que ce soit quelque chose qui soit lié. Non, pour moi, c'est mes deux naissances parce qu'il y a vraiment eu la première naissance qui est la naissance concrète à proprement parler. Et puis la naissance musicale et les premières salles dans lesquelles j'ai joué où il y a eu un rapport qui s'est construit avec le public, c'était des salles en Suisse. Donc pour moi, il y a vraiment eu deux départs en Suisse. Et en même temps, c'est vrai que je revendique cette double nationalité parce que j'aime beaucoup ne pas être que dans une seule case. J'aime bien être un peu un ovni qui se promène entre les cases. Et je pense que cette double nationalité, ça me donne aussi un regard qui est double et une manière de voir les choses qui peut toujours être extérieure puisque j'appartiens aux deux côtés sans être vraiment uniquement l'un ou l'autre. Et c'est une richesse qui me tient à cœur.
Et est-ce que cette, finalement, case, devenue double case, qui nourrit ta chanson? Peut-être sous une certaine forme de nostalgie?
De nostalgie, je ne suis pas sûr, mais ce côté double case, oui, parce que c'est aussi un peu ma manière de faire. Dès que je m'intéresse à un sujet, il y a toujours quelque chose chez moi qui essaye de le regarder autrement que le premier axe que j'ai choisi. Donc il y a toujours cette recherche de... Pas forcément d'étrangeté, mais une recherche qui y aboutit. Parce que forcément, dès que je commence à écrire quelque chose, je me dis, bon, comment tu le dirais autrement? Ou si tu étais à côté, ou la personne d'en face, comment est-ce que tu le verrais? Et du coup, ça me donne des regards qui sont souvent doubles, et du coup, des sens qui sont souvent doubles, ce qui donne parfois aux chansons des doubles fonds.
Est-ce que c'est pas un peu antithétique avec ton écriture, qui est souvent en jeu?
Non, parce que c'est pas parce que j'écris au jeu que je parle de moi. Il y a plein de chansons dans lesquelles je raconte des histoires qui sont écrites à la première personne et qui ne parlent pas de moi. Et c'est souvent l'inverse, en fait. C'est les chansons où je dis pas je qui sont le plus proche de ce que je suis. Et souvent, les chansons où je dis je, c'est une manière justement de construire un personnage, mais de le construire de manière rapide et ressentie. Parce que c'est un peu personnel, mais j'ai toujours eu l'impression que dire « c'est l'histoire d'un bonhomme », c'est quelque chose d'un peu plus éloigné, d'un peu plus lointain que de dire « je suis un bonhomme ». Et c'est aussi quelque chose qui permet de l'incarner, parce que non seulement je l'écris, mais je l'interprète. Donc ensuite, après, j'ai besoin que cette interprétation-là soit assez viscérale. Et du coup, le « je », ça me met tout de suite dans les chaussures de la personne qui parle.
Dans votre dos, une ombre s'égare dans votre sable chaud, les traces de ma mâchoire sur votre peau, mes dents sont un miroir, la confiance des manchots me nourrit de leurs espoirs. Quand je nage dans un bonheur sans loi, j'oublie les taches qui me suivent. un gagneur solitaire, un homme de choix, un homme d'affaires. J'ai perdu de vue mes amis, car je les ai mangés aussi. Je suis un requin, je suis fier de mes humeurs carnassières. Si vous fuyez, je m'extasie, c'est à l'odeur que je vous suis. Une ombre s'égare dans votre sable chaud, les traces de ma mâchoire. Quand je nage dans un bonheur sans loi, j'oublie les taches qui me suivent. Quand je nage dans un bonheur sans foi, je fuis la merde que j'oublie. Je suis un gagneur solitaire, un homme de choix, un homme d'affaires. J'ai perdu de vue mes amis, car je les ai mangés aussi. Je suis un requin, je suis fier de mes humeurs carnassières. Si vous fuyez, je m'extasie, c'est à l'odeur que je vous suis. Je suis un gagneur solitaire, un homme de choix, un homme d'affaires. J'ai perdu de vue mes amis, car je les ai mangés aussi. Je suis un requin, je suis fier de mes humeurs carnassières. Si vous fuyez, je m'extasie, c'est à l'odeur que je vous suis.
En 2015, tu sors l'album Live avec d'anciennes chansons. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces chansons-là et pas d'autres parmi toute ta discographie ?
Alors, c'était un mélange. J'ai choisi certaines chansons parce que j'avais l'impression qu'elles pouvaient grandir encore un peu ou qu'elles avaient déjà changé par rapport à leur version originale en les jouant sur scène. Et puis après, il y a eu aussi une recherche de famille parce qu'il y a eu, sur ce disque-là, il y a 9 titres qui sont des anciens titres réadaptés et 9 titres qui sont nouveaux, donc qui sont nulle part ailleurs sur un autre disque. C'est un peu un mélange entre un nouvel album de titres originaux et un album avec des titres anciens. Et je voulais qu'il y ait une espèce d'unité, en fait, entre ces 18 titres-là. Et du coup, pour moi, le choix, il a été un peu guidé par ces deux impératifs-là. À la fois, donner un autre visage à des titres qui, selon moi, pouvaient en avoir un. Et puis, en même temps, créer quelque chose d'assez homogène par rapport à ce qui arrivait ensuite.
Et comment tu as réfléchi, plus précisément, cet appariement entre anciennes chansons et nouvelles chansons ? Est-ce qu'en écoutant l'album d'un point A à un point B, ça raconte toute une histoire ?
L'album, il a une construction assez bizarre parce que c'est un live, mais c'est un live qui n'est pas écoutable dans l'ordre dans lequel il a été enregistré. C'est-à-dire qu'en fait, les titres ont été joués dans un ordre qu'on a choisi pour le concert. Et ensuite, moi, je voulais une écoute d'album, en fait, sur ce disque. Donc, je voulais une écoute qui n'était pas forcément la même que celle qu'on choisit pour un concert, où on travaille beaucoup sur aussi les énergies et qu'est-ce qui se passe dans le public et l'énergie qu'on peut partager avec les gens et qui est censée s'élever, monter et puis prendre de plus en plus d'intensité. Moi, je voulais un disque qui soit à la fois inattendu dans l'ordre des titres et qui ne lasse pas. Et ce qui, pour moi, n'était pas forcément le même ordre que quelque chose en live, en sur scène. Donc voilà, je ne sais pas si ça raconte une histoire, mais en tout cas, ça ne raconte pas forcément la même que ce qui s'est enregistré sur le moment.
J'ai l'impression que chaque album fait ressortir différents ancrages chez toi ou dans les personnages que tu transcris. On retrouve passablement le couple dans Métamorphose. On retrouve la nature, la mer dans Courant d'air, également aussi la famille. Quel serait l'ancrage que tu définirais pour l'album live ?
Si on fait un petit résumé, je pense que le Courant d'air, c'est un album qui est très enfantin, le premier. Un album qui avait un regard assez cru. Enfin, pour moi, c'est un album qui avait vraiment quelque chose d'assez, d'assez immédiat et assez impulsif dans la manière de dire les choses, tant sur que ce soit la fée Clopette, qui était assez marrant, mais assez décalé, la fée qui est hyper trash, mais qui reste quand même très froid, enfin très, très rentre-dedans, en fait. Il y a quelque chose d'assez innocent, en fait, dans la manière d'approcher la violence avec cette chanson. Et pour moi, cet album-là, il est très dans l'enfance. Alors que les Métamorphoses, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adolescent, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une impulsivité et une entrée dans des sentiments complexes qui est quelque chose qui s'approche beaucoup plus au niveau de l'adolescence qu'avant. Et le live, pour moi, c'est un peu une porte. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites avant et puis qui ont trouvé une nouvelle forme pour passer dans la serrure. Et puis, il y a ce qui va arriver et puis d'autres choses qui sont... C'est un peu une espèce de disque en mutation. Et qui va amener vers le troisième, qui va sortir bientôt, et qui lui sera plus l'entrée dans l'âge adulte.
Alors là, tu nous en as dit trop ou pas assez. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose d'autre que l'âge adulte sur ton prochain album ?
Je ne peux pas. Non, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se définit, mais c'est quelque chose que je sens comme étant assez impulsif. C'est vrai que les autres albums, même si je ne parlais pas de moi directement, étaient très sur le jeu. J'ai l'impression que le prochain, c'est un regard qui passe de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui se tourne un peu plus vers l'extérieur, comme si à une certaine période de la vie, ça devient plus possible de ne pas considérer ce qui se passe autour et de ne pas en tenir compte par rapport à ce qu'on veut dire. Même si ça change pas la manière d'écrire ou la manière d'approcher les sentiments, mais l'extérieur et le monde autour commencent à se faire sa place et à rentrer dans l'histoire.
Une évolution peut-être assez drastique en fait par rapport à Live, où tu as quand même choisi de mettre à nu certaines chansons avec un simple piano-voix, quelque chose qu'on retrouvera dans le prochain album.
Alors, je ne sais pas si la mise à nu musicale est liée ou doit être forcément liée à la mise à nu du propos. Parce que pour moi, oui, il y a une espèce de... J'aime pas trop le mot, mais une espèce d'épuration qui se crée. Il y a une espèce de tentative d'enlever le superflu pour avoir quelque chose d'un peu plus brut. C'est quelque chose qui risque de se poursuivre aussi vers le prochain, mais ça ne veut pas dire que la mise à nu ne se continue pas. On peut très bien proposer une mise à nu totale d'une chanson tout en ayant une chanson qui parle d'autre chose que de soi. Et je pense qu'on peut se mettre à nu soi-même, mais on peut aussi mettre à nu ce qui se passe autour de soi. C'est peut-être un peu plus difficile, mais plus intéressant.
Regarde petit con les années qui nous séparent. Regarde petit con les voies où ta jeunesse s'égare. Regarde petit con le mal de tes tendres erreurs. Regarde petit con la taille de tes fausses douleurs. Je croyais me dire rien ne se fait sans pleurs. Je croyais qu'il ne faut pas vivre pour ne pas avoir peur. Regarde petit con les plaies qui lacèrent ton visage. Regarde petit con la guerre, cette folie de ton âge. Je voulais voir de nous qui était le plus fort. Je croyais penser qu'il faut se battre pour ne pas avoir tort. Au fil du temps qui saurait devenir grand. Regarde petit con la femme qui pleurait à ta porte. Regarde petit con, elle était belle, elle était forte. Je voulais voir jusqu'où mon image résonne. Je ne voulais voir l'amour en personne. Regarde petit con la mort qui nous attend tous. Regarde petit con l'amour qui la repousse. Je ne savais voir qu'il y a tant à croire. Croire à ces images de l'amour au-delà du noir. Au fil du temps qui saurait devenir grand. Regarde petit con mes années de travail. Tant d'efforts à bâtir ce que ta jeunesse entaille. Je ne voyais pas l'espoir aligné dans vos mains. Je croyais vous suivre, mais je ne crois plus à rien. Au creux de ta jeunesse, tu caresses le temps et son ivresse qui nous presse. Attendant la promesse, la tendresse d'une sagesse. De ma jeunesse, je caresse le temps et son ivresse qui nous presse, attendant la promesse, la tendresse d'une sagesse. Au creux de ta jeunesse, je caresse le temps et son ivresse qui nous presse, attendant la promesse, la tendresse d'une sagesse. Au fil du temps qui saurait devenir grand.
Oh, Azimut!
Dans l'album live, tu as repris des titres de grands artistes comme Barbara notamment, mais tu le faisais déjà. Si on réfléchit, t'aimes bien les hommages cachés entre l'exil du pingouin qui fait un tout petit peu penser à la complainte du phoque en Alaska, ou Squall qui peut faire un parallèle avec Homme pressé de Noir Désir.
Oui, alors Noir Désir, moi je pense qu'il y a encore une autre citation un peu plus directe, c'est que j'ai repris frontalement une chanson de Noir Désir. Et oui, après le Squall, c'était pas du tout un hommage voulu, mais quand je l'ai écrit et quand voilà, que le texte était sous mes yeux, je me suis dit, bah là c'est une référence qui n'est pas niable et qui est même, mais dont je suis assez fier, donc en même temps c'est vrai que c'est presque une citation, mais c'est une citation que je revendique et qui me plaît. Après, je sais pas si c'est une vraie manière de faire parce que la complainte du phoque en Alaska, moi, pour moi, ça reste quand même assez éloigné de la chanson, qui est plutôt une citation du premier épisode de l'histoire du truc, avec des phrases musicales qui reviennent. Les reprises, c'est des choses que j'aime bien faire, mais quand j'ai le sentiment que je peux essayer d'y apporter quelque chose de différent, ou en tout cas un regard qui permet d'aménager une petite place à l'interprétation par rapport au chef-d'œuvre qui existe déjà, parce que Barbara, c'est quand même un monument de la musique. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça rend, ce que ça apporte, et ce que le bonheur que ça me donne à le faire. Mais en tout cas, jusque-là, le bonheur n'a pas disparu, donc je me dis que j'ai bien fait.
Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulés. Quand reviendras-tu? Dis au moins le le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne. Ton visage me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal. Quand reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux nos plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de ceux qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu. Reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Azimut, azimut, azimut.
On a parlé de Live, l'album, et quand on arrive sur ton site, on se rend compte qu'en fait, il existe Live Plus, qui est en fait une partie du site qui est privée. On retrouve des vidéos et des bonus. Tu dis que la vidéo, parce que tu as fait un joli petit trailer là-dessus, tu dis que la vidéo est un plus parce que ça permet de regarder la musique. Donc toi, tu n'as pas l'impression que la musique à la télévision, c'est un peu comme le théâtre à la télévision, à savoir que l'angle de la caméra fait perdre un peu d'immersion ou même de qualité en fait à ce qui est fait sur scène?
Ça dépend. Ça dépend de qui a fait le montage et qui l'a filmé. C'est pour ça que dans ce petit teaser, justement, je précisais que c'était moi qui avais fait le montage de ce film. Parce que du coup, c'est pas comme si quelqu'un qui ne vivait pas cette musique-là de l'intérieur avait fait un montage qui aurait pu, par malchance, dénaturer ou détourner le propos de certains aspects musicaux que j'aurais voulu. Parce que là, c'est moi qui ai fait le montage en ayant aussi créé les arrangements. Donc du coup, c'était pour moi une manière supplémentaire de pousser le volume sur certains, par exemple sur certaines pistes de guitare en la montrant. Donc c'était une manière d'enrichir le mixage et l'espèce de focalisation que j'essayais de provoquer par une oreille sur certains instruments. Là, je la provoque avec l'oreille, mais en même temps, je propose aux gens d'avoir un regard différent et supplémentaire sur les chansons.
Live, la vidéo est un retour pour toi à tes premiers amours cinématographiques.
Ah bah oui, mais ça, je les ai jamais quittés. Ça, pour moi, c'est pas... j'ai pas l'impression d'avoir fait une bifurcation, d'avoir renoncé à quelque chose en passant du cinéma à la musique, parce que pour moi, il y a un vrai lien, en fait, entre les deux. Et je pense que c'est quelque chose qui va revenir aussi. Enfin, c'est pas du tout impossible qu'un jour, je me dise, tiens, je vais faire un film dont je ferai les musiques, plutôt que de faire les musiques dont je fais les films en ce moment. Enfin, pour moi, il y a vraiment les choses vont de pair en fait, c'est deux manières d'expression, et même dans l'écriture en fait, pour moi il y a quelque chose de très cinématographique, enfin en tout cas dans ma manière de voir la présentation d'un univers.
se voir en vidéo change forcément le regard que l'on a sur sa prestation sur scène. Est-ce que ça l'a changé en amont ou est-ce que ça l'a changé a posteriori ?
Ça la change tout le temps. Je pense que c'est comme quand on s'entend pour la première fois. Au début, les premières fois qu'on se voit, on se rend compte de tous les gestes, de tous les petits détails, les manières d'être, les expressions, les déplacements, enfin, tout ce qui se passe et qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne maîtrise jamais en fait, au final, mais voilà, qui se dégage immédiatement sans qu'on s'en rende compte. Et puis après, bah quand on fait le montage, forcément, on met en valeur des choses, on enlève certaines, mais je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. On est toujours un peu dans une espèce d'inquiétante étrangeté, en fait, en se voyant, puis en sachant que c'est soi, mais que c'est aussi une matière qu'on essaye de sculpter avec la lumière ou le son ou l'image, quoi.
Sur Live Plus, il y a de nombreux témoignages de tes compagnons de route. Est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce qu'ils ont finalement un regard plus juste sur ce que tu fais, sur ce que tu es ?
Je ne sais pas si on peut parler d'un regard juste. En tout cas, ils n'ont pas le même. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça élargit les horizons. Après, je ne crois pas trop au regard juste. Moi, je crois au regard authentique ou un regard qui renouvelle qui renouvelle ce qu'on peut avoir nous dans la tête. Mais un regard juste, je crois que je ne sais toujours pas ce que ça veut dire.
Le sourire de ma mère, plus d'amour que n'en contient la terre. Dans le regard de ma mère, toutes ses origines dont je suis fier, malgré le courage qui me fait quitter ton rivage. Je me ramène quand vient l'orage, quand menace le naufrage, malgré les visages de mes amours de passage. Je te ramène mes bagages lorsque le cœur perd son point d'ancrage. Dans les chansons de ma mère, l'ivresse de vouloir être lumière. Dans les histoires de ma mère, l'enfance où la joie est familière. Malgré le courage qui me fait quitter ton rivage, je me ramène quand vient l'orage, quand menace le naufrage, malgré les visages de mes amours de passage. Je te ramène mes bagages lorsque le cœur perd son point d'ancrage. Parfois je repense que ma seule et vraie église sera l'exigence de joie que tu m'avais apprise. Je nous revois encore dans cet Éden d'or, toi la Madone et moi l'enfant. Je te ramène mes bagages lorsque le cœur perd son point d'ancrage. le visage de ma mère. La tendresse devient une prière sur mon visage, un éclair quand j'y vois le sourire.
Juste Zimut.
Alors, tu t'es lancé un nouveau challenge. Tu as décidé d'être parrain d'une émission de télévision à la RTS qui s'appelle Un air de famille. On aime, on n'aime pas, c'est un avis personnel, chers auditeurs. Pourquoi ?
Alors, en fait, quand on m'a proposé l'émission, moi, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui fonctionnent sur ce système-là, c'était est-ce que je serais le juge ou pas ? Parce que je leur ai dit, moi, ce que je n'aimerais pas, c'est avoir un champignon ou un buzzer ou un vote et dire à quelqu'un, toi, tu continueras. Toi, t'es pas au niveau, et parce que je leur disais, moi, je me considère pas comme étant en droit de juger des capacités ou non de quelqu'un, et je veux pas être l'interrupteur ou non d'une carrière qui s'interrompt ou qui se ralentit, ou d'un espoir qui naît par erreur, ou d'un espoir qui s'arrête par erreur. Donc pour moi, c'était vraiment la grande question, c'était ça. Et ensuite, on m'a dit non, tu ne seras pas dans une position de juge, mais de parrain, c'est-à-dire que tu accompagnes les gens dans le chemin qu'ils choisissent de faire en venant là, et voilà, ton rôle, c'est juste de faire en sorte que leur expérience se passe le mieux possible avec ce que tu pourras leur donner comme conseil ou comme regard différent, justement, qui ne sont pas forcément justes. Et voilà, et c'est pour ça que l'aventure m'a séduit et que je l'ai dit oui.
Ce soir, tu es en concert pour l'annonce du programme Voix de Fête. Quel est ton lien avec Voix de Fête ?
Moi, j'ai la chance d'avoir des belles histoires dans ma vie musicale et Voix de Fête en fait partie. Et c'est vrai que Roland Le Blévenec, qui chapeaute ce festival depuis un moment, a très vite soutenu mon projet et m'a accueilli plusieurs fois dans ce festival. Donc c'est une vraie aventure musicale, mais c'est une aventure humaine aussi. Et c'est ça qui me plaît dans les histoires qu'on peut vivre à travers la musique.
La Fabrique.
Alors c'est le moment d'un de nos rendez-vous. Chers auditeurs, on va passer aux questions du tac au tac. Je t'ai choisi une thématique animalière, étant donné que c'est quelque chose que l'on retrouve, soyons honnêtes, assez fréquemment dans tes chansons.
Vraiment.
Première question, quel est le point commun entre toi et un poulpe ?
Le cerveau.
Que doit-on faire pour te transformer en ours mal léché ?
Il faut m'enlever mon pot de miel.
Dans le milieu musical, tu es plutôt requin blanc, moi d'abord, et les cadavres pleuvront autour de toi, ou requin baleine, tu te laisses porter par le courant ?
Je suis dauphin, moi, dans le milieu musical. Non, je suis ni l'un ni l'autre, je ne me reconnais pas là-dedans.
Si tu étais un pingouin, où migrerais-tu ?
Je suis un pingouin, la question ne se pose absolument pas. Je migrerais dans un pays tropical, là, parce que je suis un pingouin tropical.
Quelle est ta plus belle métamorphose ?
Je pense que je ne l'ai pas terminée.
À quel moment de la journée es-tu une fourmi laborieuse ?
Le matin, très tôt le matin.
Étonnant pour quelqu'un qui joue la nuit. Si tu étais une araignée, quel serait le motif de ta toile ?
Une étoile, ça paraît un peu galvaudé, mais ça serait une étoile, je pense.
Quel animal te représente le mieux ? À part le pingouin, ce serait trop facile.
Le manchot.
Et de quelle chimère as-tu peur ?
Les miennes.
Je suis un terrien, je voyage au loin, je vole sans âge. Je suis un pingouin, perdu en chemin, je nage au sol. Comme tu vois, je croyais que là-bas, il y aurait de quoi. Comme tu vois, je rêvais que là-bas, je trouverais de quoi faire de moi. ma maison, en vain ma chère cendre. J'avais fui pour rien la trace des miens, mes tendres frères. Comme tu vois, je croyais que là-bas il y aurait de quoi être moi. Comme tu vois, je rêvais que là-bas je trouverais de quoi faire de moi un autre que ça. J'avais cru soudain que changer de vie ferait ma joie demain. J'avais cru pour rien pouvoir être libre loin de moi. Je marche à rebours du matin. Je suis un pingouin perdu en chemin. Je nage au sol.
Alors, on arrive au terme de cette interview. C'est le moment de nous donner tes prochaines dates.
Alors, on est en train de terminer ce qui est en train de toute la tournée qui s'est passée depuis quelques temps, parce qu'on va se mettre à enregistrer le prochain disque qui sort fin 2016. Donc là, on a encore quelques dates. Et puis après, je m'enferme pour finir le maquettage et l'enregistrement et le mixage du disque. Et puis après, il y a encore d'autres dates qui sont en cours et qui vont arriver, mais qui sont encore un peu floues.
Donc ce sera bientôt à toi d'entrer sur scène. Est-ce que tu serais d'accord de nous faire pénétrer dans la loge de l'artiste et de nous dire quels sont tes trucs à toi avant de monter sur scène ?
Moi, je suis un peu comme un lion en cage. Donc souvent, ce que je fais, je ne sais pas si ça m'aide, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un truc, mais je me mets loin en fait, de tout le monde dans mon coin, et puis je tourne en rond, et puis je lis ma setlist, donc tous les titres qu'on va jouer, au moins une cinquantaine de fois. C'est peut-être plus c'est peut-être plus compulsif que méthodique en fait comme habitude, mais c'est ce que je fais tout le temps. Je me mets dans un coin et puis j'écoute le silence.
Dernière question avant de se quitter, Nicolas Fraissinet, merci de ce moment ensemble. Si tu devais choisir certains de tes titres pour accompagner cette interview, ce seraient lesquels ?
Je verrais bien que ça se termine avec Lève-toi.
Merci beaucoup Nicolas Fraissinet.
Que l'on marche en rêve, où le vide se forme. Il y a longtemps que l'on tâche nos lèvres des rougeurs du sort. Il y a longtemps que l'on crache la fièvre, on regrette mon remords. Il est l'heure d'aller là-haut. Laisse-moi te dire alors, comme avant de perdre haleine, dresse-toi contre le sort. Lève-toi encore avant le jour, lève-toi plus fort encore un détour. Regarde devant, le sommet nous attend. Si j'en reviens, nous irons loin. Il y a longtemps que l'on lâche la trêve entre nous et l'aurore. Il y a longtemps que l'on cache nos rêves, nos plus beaux trésors. Lève-toi encore avant le jour. Lève-toi plus fort, encore un détour. Regarde devant, le sommet nous attend. Si j'en reviens, nous irons loin. Lève-toi encore avant le jour. Lève-toi plus fort, encore un détour. Regarde devant, le sommet nous attend. Si j'en reviens, nous irons loin.
Zut et flûte, c'est la fin d'Azimut.